le magazine des Nations Unies.
Le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme met en garde. Tous ceux qui attisent le feu et violent les droits de l'homme à Minembwe au sud Kivu pourront répondre de leurs actes devant la justice, quel que soit leur rang. Les plateaux de Minembwe sont ces derniers temps le théâtre de nombreuses violations de droits de l'homme. Que faire pour prévenir le risque d'apatridie auquel sont exposés beaucoup de Congolais et de réfugiés? La question a fait l'objet d'un forum cette semaine à Kinshasa. Pour en parler, McGuen a fait appel à un expert du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, Deo Bitakuya, et notre invité. Journée mondiale de l'alimentation, le PAME et la FAO, plus présentes sur le terrain, les deux agences sont descendues dans la commune urbano-rurale de Lancele. Objectif, appuyer et encourager les femmes maraîchères de la périphérie de Kinshasa. Le nouveau commandant adjoint des forces de la MONUSCO est déjà à l'œuvre. Juste après sa nomination, le général de division Thierry Jacques Lyon a inspecté les troupes de casque bleu à Beni cette semaine.
Magazine des Nations Unies, actualité de la semaine.
Bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro du magazine des Nations Unies. L'actualité cette semaine a été notamment dominée par la situation qui prévaut sur les plateaux de Minembwe au sud Kivu, situation très préoccupante tant sur le plan sécuritaire que des droits de l'homme selon le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme. Les présumés auteurs des crimes et discours haineux dans cette zone pourront être poursuivis en justice, a averti mercredi à Kinshasa le directeur du Bureau conjoint. Abdulaziz Dotioye parle de 73 villages brûlés et de nombreux cas d'exécution extrajudiciaire commis notamment par les groupes armés qui écument la région. Son Bureau continue de documenter la situation sur terrain. Je vous propose d'écouter Abdul Aziz Tioye au micro de Jean-Pierre Elalikoko.
Depuis mars 2019, la situation s'est sensiblement détériorée. On a connu une recrudescence des violences depuis octobre. À ce jour, je peux vous dire que depuis mars 2019, nous avons documenté 73 villages qui ont été brûlés par à la fois les différents groupes Maïmaï, y compris les Gumino et les Tuganeo. Pour dire que la situation est très critique et nécessite aujourd'hui une approche global. Je suis d'accord effectivement que la solution n'est pas que militaire, mais pour l'heure il est important de forcer ces groupes à désarmer. C'est la seule solution pour s'assurer de l'intégrité physique et préserver la vie des populations civiles qui vivent dans ces zones-là. Ce qui se passe n'est pas acceptable. À cela s'ajoute tout le discours de haine qui entoure le conflit et l'incitation à la haine et à la violence qui sont constitutifs de crimes internationaux. Il faudrait que les auteurs en soient conscients. Quel que soit leur rang, ils peuvent faire l'objet de poursuites.
Restons dans les cadres des droits de l'homme pour parler des tendances du mois de septembre 2019 publié par le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme. Ce rapport place les combattants de groupes armés en première position des auteurs présumés d'atteinte aux droits de l'homme avec 51% des cas, tandis que les FRDC et les agents de la PNC, la police nationale congolaise, viennent en deuxième position avec 49% des violations. Selon la même source, 502 cas de violations de droits de l'homme ont été enregistrés en République démocratique du Congo pendant cette période, soit une augmentation de 10% par rapport au mois d'août qui a connu 457 cas. Écoutez une fois de plus Abdul Aziz Tioye, directeur du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme. Il est au micro de Jean-Pierre Elalikoko.
Près de 5% des violations documentées ont été commises dans les provinces non affectées par le conflit, toutes attribuables à des agents de l'État, soit près de la moitié à des militaires FRDC. La plupart des violations commises dans ces provinces non affectées par le conflit ont été enregistrées dans le Haut-Katanga, Kinshasa, le Lualaba et également la Tchopo. Le bureau conjoint a d'ailleurs documenté 61 violations des droits de l'homme et des libertés fondamentales liées à des restrictions de l'espace démocratique sur l'ensemble du territoire. Un chiffre proche des 59 violations enregistrées au mois d'août. Les provinces les plus affectées sont le Nord Kivu, le Kasaï et le Sud Kivu. Dans un retournement de tendance, les principaux auteurs de ces violations sont des combattants de groupes armés qui ont ciblé des activistes de la société civile en raison de leur statut ou pour avoir dénoncé ou tenté d'empêcher des atteintes commises par des groupes armés. En septembre, le bureau conjoint a continué d'appuyer les activités des juridictions militaires et civiles dans le cadre de la lutte contre l'impunité. Au moins 25 militaires FRDC, 3 agents de la PNC et 18 combattants des groupes armés ont été condamnés.
Développement à la suite de la conférence internationale sur la paix et les investissements d'investissement en République démocratique du Congo et dans la région des Grands Lacs, un consortium d'investisseurs chinois entend appuyer les efforts de pacification de l'Est du Congo démocratique par des investissements privés dans les domaines des infrastructures routières et énergétiques. Une délégation d'une entreprise chinoise a échangé à cet effet avec le coordonnateur du mécanisme national de suivi. C'était lundi, le 27 octobre 2019. Des détails avec Jean-Désiré Kanyama.
Pour le coordonnateur du MNS, il est question de pacifier l'Est de la RDC en créant l'emploi pour lutter contre la pauvreté. Un programme faisant partie de la feuille de route présenté aux bailleurs de fonds à la rencontre de New York, a dit Claude Ibalanki.
Pour pérenniser la paix, il faut qu'il y ait le développement, il faut qu'il y ait des investissements. On ne peut pas s'attaquer au problème de la paix sans résoudre les causes profondes. Et il y a beaucoup de causes profondes que les mécanismes ont identifiées. Donc s'il y a le développement, s'il y a les investissements, les jeunes vont s'occuper au lieu de rejoindre les groupes armés.
Et pour garantir la pérennisation de la paix à travers les investissements, les partenaires chinois vont travailler dans le domaine des infrastructures. Song Wikun.
Aujourd'hui, nous sommes venus pour pouvoir apporter les solutions à travers les différentes compagnies qui vont venir investir, c'est-à-dire garantir la pérennisation de la paix à travers les investissements. Amener de l'expertise, amener des compagnies adéquates qui vont travailler avec les différents départements ici en RDC, spécialement dans le domaine de la reconstruction.
Et pour affermir leurs relations dans le cadre des incitations économiques de la paix, l'entreprise chinoise Jiangsun Golden Coast Consultant Development a présenté son point focal auprès du mécanisme national de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba.
Du développement aux droits de l'homme, il n'y a qu'un pas. Dans le cadre de son programme Éducation aux droits de l'homme et aux valeurs des Nations Unies, le réseau francophone de protection des droits de l'homme a organisé lundi dernier à Kinshasa, avec l'appui de l'UNESCO et du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, une matinée en faveur des cadres du secteur éducatif. Le coordonnateur de ce réseau, Olivier Bakali, s'est exprimé sur l'objectif de cette matinée. Il est au micro de Jean-Désiré Kanyama.
Il a été question de rechercher encore des pistes sur comment asseoir la formation ou l'éducation reposant sur le respect des droits humains en milieu éducatif. Trois axes ont été déterminés. Il y a d'abord la mise en place de toutes les questions liées au respect des droits humains dans le milieu éducatif, c'est-à-dire le milieu scolaire, mais également ils ont relevé trois axes principaux, notamment le droit à l'environnement sain et le droit aux loisirs dans le milieu éducatif. Et ça, c'est très, très, très important. Ils ont souhaité voir le réseau les accompagner sur la facilité de l'interprétation de tous les instruments internationaux relatifs aux questions des droits de l'homme dans les milieux scolaires. Comme vous le savez, le pays a besoin d'un changement de mentalité, d'un changement de comportement et d'intégrer les valeurs. On ne parle pas seulement des droits de l'homme, mais les valeurs dans le sens universel, local, qui doivent nous permettre d'asseoir l'éducation sur des piliers qui nous booste vers le développement.
Magazine des Nations Unies, décryptage.
La FAO et l'UPAM ont célébré cette année, aux côtés du gouvernement congolais à Kinshasa, la Journée mondiale de l'alimentation. C'était le mercredi 23 octobre sur le site maraîcher de Tchwenge, dans la commune de Lancele, ici à Kinshasa. Monsieur Aristide Ongone Obame, représentant de la FAO, a donné le sens de cet événement dans cet entretien avec Honoré Misinga Kalala.
Monsieur le représentant, bonjour.
Bonjour.
Vous célébrez la Journée mondiale de l'alimentation. C'est quoi l'alimentation ?
Une question sémantique, c'est toutes ces opérations qui consistent pour un être vivant, parce que ça ne concerne pas que l'être humain, l'alimentation, à absorber des éléments, des ingrédients qui participent à son métabolisme pour sa survie.
Alors, pourquoi faire une journée mondiale ?
Une journée mondiale, parce que l'alimentation est une préoccupation, une problématique pour l'être humain qui est mondial et qui est à la base de toute chose. Quand on est, le premier acte qu'on pose, c'est de téter le sein de sa maman. L'alimentation est la base de tout ce que nous faisons. Donc ça concerne tout le monde. Il n'y a pas un seul être humain qui peut dire que l'alimentation c'est secondaire. Ça n'existe pas. Donc nous sommes tous concernés, mais comme l'alimentation pose des problèmes actuellement, c'est pour ça qu'à chaque fois, au moins une fois par an, on attire l'attention, on tire la sonnette d'alarme pour que tous ceux qui concourent, tous ceux qui participent, tous ceux qui sont intégrés, impliqués dans les politiques alimentaires, sachent qu'il y a des problèmes auxquels il faut trouver des solutions.
Pour l'année 2019, quel est le thème ?
Le thème, c'est pour l'avenir, une alimentation saine pour un monde fin zéro.
Alors, si on peut décortiquer ce thème, des actions, comment vous allez agir ?
Pour agir, il faut produire. Ça, c'est la première chose. parce qu'il faut qu'il y ait déjà la disponibilité. Nous devons produire, mais nous devons produire avec des systèmes qui permettent deux choses essentiellement. Produire des aliments de bonne qualité et respecter l'environnement, parce que c'est l'environnement qui nous permet de produire. On préserve l'environnement pour produire sain. Voilà les actions principales qu'il faut mener.
Donc, qu'est-ce qu'il y a des aliments qui ne sont pas sains?
Bien entendu, les aliments qui sont produits dans des systèmes inappropriés ne sont pas sains. Des systèmes inappropriés, des terres qui sont polluées, des terres qui sont saturées par des polluants, qu'ils soient chimiques ou pas. On peut aussi dire que trop d'intrants comme des pesticides, ça peut, s'ils sont mal utilisés, mal dosés, effectivement provoquer des déséquilibres au niveau même de l'alimentation. Il y a même des résidus qui restent dans les aliments et que nous absorbons. Et effectivement, c'est pas sain. C'est pas sain. Je peux encore citer d'autres cas. Oui.
Alors, il y a le dernier axe du thème, c'est fin zéro. Qu'est-ce que vous entendez par fin zéro?
Fin zéro, nous allons d'abord rappeler qu'aujourd'hui, nous avons encore un peu plus de 800 millions de personnes qui souffrent de faim dans le monde. Quand on vous dit ça, c'est dramatique. Ça veut dire que ça dépasse la population du Congo. C'est comme si le Congo fois 8 ou fois 9 souffrait de faim. Pour vous donner une image, c'est dramatique. Alors, ceci dit, notre objectif, c'est libérer ce monde de la faim. Faire en sorte que d'ici 2030, c'est un délai qu'on s'est fixé, qu'il n'y ait plus personne qui souffre de faim. Maintenant, ça c'est faim zéro. Mais ça ne suffit pas. Vous pouvez avoir l'impression de ne pas avoir faim, mais d'être malnutri quand même. Il faut manger à sa faim, mais avec des aliments sains et variés. Il faut de l'équilibre dans ce que vous mangez. Sinon, vous passez de l'autre côté de la barrière. D'un côté, nous avons les affamés. De l'autre côté, nous avons les obèses. Ceux qui mangent beaucoup, mais de manière déséquilibrée.
Dernière question, monsieur le représentant. Vous venez célébrer cette journée sur ce site avec des maraîchers. Le fait de cibler des maraîchers a un message particulier?
Le message ne s'adresse pas spécifiquement aux maraîchers. Le message s'adresse à nous tous. Vous voyez, cette journée est une journée, j'ai dit tout à l'heure, pour tirer la sonnette là, pour interpeller. Vous avez vu que nous avons eu la chance d'avoir parmi nous deux membres du gouvernement qui sont venus. Ce sont eux les décideurs. Ils doivent pouvoir décider. C'est pour interpeller cela. On devrait aussi interpeller le corps diplomatique. On avait ici un ambassadeur parmi nous. C'est quelqu'un qui peut décider aussi. Nous avons aussi dans l'assistance des ONG, le secteur privé. Tout ça, ça ne concerne pas que les maraîchers. Ça concerne tout ce monde-là. Ils doivent tous intervenir, agir. Nous avons besoin de tout ce monde-là.
Alors, peut-être un dernier message par rapport à la journée, par rapport au thème.
Bon, un dernier message, ce serait d'encourager le gouvernement de la République démocratique du Congo à accorder, comme cela commence à se dire, l'importance qu'il faut au travail de la terre, à la production agricole. À partir de là, la production agricole va nous permettre très rapidement, non seulement d'aller vers fin zéro, mais de régler le problème de la main-d'œuvre, de l'employabilité des jeunes. Vous avez vu sur ce site maraîcher, il y a plusieurs jeunes qui sont là-dessus. Et quand on a distribué des kits, on n'a pas pu satisfaire tout le monde. Donc, il y a encore de l'espace, il y a plusieurs jeunes qui veulent se lancer dans la production maraîchère. Je pense que c'est un appel. Et j'ai eu l'occasion de partager déjà avec quelques ambassadeurs si ensemble, on peut renforcer ce site. Voilà.
Merci beaucoup, monsieur le représentant.
C'est moi qui vous remercie.
En plus bref, la MONUSCO a pour une campagne de sensibilisation à la paix des populations de Djougou. Du 18 au 23 octobre 2019, en effet, les leaders communautaires Lendou ont sillonné 11 localités de ce territoire de l'Ituri avec des messages précis, collaboration avec les forces de sécurité, se désolidariser avec les groupes armés et retour dans les villages. Cette campagne a bénéficié de l'appui de la MONUSCO partout où la délégation des leaders Lendou est passée. Des représentants du gouvernement provincial, des FRDC et de la police nationale congolaise ainsi que ceux de la FEC Ituri ont pris part à cette croisade. MONUSCO encore, dans le cadre du renforcement des capacités opérationnelles de la police nationale congolaise, une séance d'exercice conjoint en gestes et techniques professionnelles d'intervention entre l'unité de police constituée égyptienne de l'UNPOL, la police des Nations Unies et le groupe mobile d'intervention GMI de la police nationale congolaise a été effectuée le 23 octobre dernier à Bukavu, au Sud-Kivu. Ces exercices avaient pour objectif de permettre aux éléments GMI de remplir efficacement leur mission en suivant les normes internationales à la matière. 29 policiers congolais y ont pris part. Terminons cette page en restant au Sud-Kivu. Près de 3000 déplacés internes sont confrontés aux difficultés de tout genre à Mikenge, sur le territoire de Mwinga, autour de la base au MONUSCO, ils avaient trouvé refuge. Le constat a été fait le mercredi 30 octobre 2019, sur place, par une mission d'évaluation conjointe conduite par la MONUSCO et composée notamment du HCR, du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, du PAM et de OCHA. Ces déplacés avaient fui il y a quelques semaines des affrontements intercommunautaires en cours, marqués par l'activisme des groupes armés.
Magazine des Nations Unies, l'invité.
Le risque d'apatridie et les difficultés administratives liées à l'octroi de la nationalité en RDC, c'est le thème abordé au cours d'un forum organisé par le Comité interministériel de lutte contre l'apatridie. Ce forum avait pour objectif d'informer, de former et de sensibiliser les officiers de l'état civil sur la problématique de l'apatridie en RDC. Deo Bitakuya Kamanda, administrateur associé à la protection au HCR, aborde la problématique d'apatridie et de nationalité en République démocratique du Congo. Il s'entretient avec Jean-Pierre. Et la Ligue Coco.
Bitakuya Kamandadeo, bonjour.
Bonjour, merci.
Il s'est tenu ce mardi un forum d'information et de sensibilisation des officiers de l'état civil sur l'apatridie. D'abord, pour le commun des mortels, qu'est-ce que c'est l'apatridie?
En fait, l'apatridie, c'est une situation dans laquelle se trouve une personne qu'aucun état ne considère comme étant son ressortissant en application de sa législation. Donc, c'est une personne qui ne peut pas se marier, qui ne peut pas voyager, qui n'a pas de pièces d'identité, qui se trouve dans l'impossibilité d'entrer en contact sur le plan juridique, la personne est invisible, alors que la personne, sur le plan physique, elle est visible.
Quel a été l'objectif de ce forum?
En fait, l'objectif de ce forum était d'informer, de former et de sensibiliser les officiers de l'état civil sur la problématique de l'apatridie en RDC. Parce qu'au fond, l'apatridie, dans ses causes principales, il y a les pratiques administratives, l'arrêtement des faits d'état civil. En dehors de l'information, la sensibilisation sur les phénomènes d'apatridie, on devrait également identifier ensemble avec les officiers de l'état civil les meilleures pratiques à mettre en place pour lutter contre l'apatridie en RDC.
Et tout a tourné autour de la problématique même de la nationalité, du risque de l'apatridie en RDC, comme vous l'avez dit. Alors, en quels termes se pose cette question des nationalités ou même d'apatridie en République démocratique du Congo?
Donc, l'apatridie est liée directement avec la nationalité. Et si on lit la loi de 2004 relative à la nationalité congolaise, dans l'exposé des motifs, les législateurs congolais a exprimé sa ferme volonté d'intégrer des normes modernes dans la nouvelle loi sur la nationalité, plus particulièrement la convention de 1961 sur la réduction des cas d'apatridie. Donc dans la loi de 2004, c'est vrai, c'est une loi qui a suffisamment évolué comparativement à la loi de 71 et la loi de 82, mais dans les fonds, il y a encore des petits soucis qu'il faut harmoniser, notamment si on parle l'article 4 qui parle de la nationalité congolaise d'origine, qui parle de la dimension ethnique pour attribuer une nationalité, parce qu'au niveau traditionnel, les critères d'attribution de la nationalité ne sont pas encore ethniques, du lien de filiation, du sang ou du sol. Mais partir de la dimension ethnique n'est pas un bon critère d'attribution de la nationalité. Si on va même plus loin, dans l'administration même de la nationalité, au niveau du ministère de la Justice, il n'y a aucune procédure qui est décrite pour avoir un certificat de nationalité. Et même le certificat en soi est centralisé au niveau national, ce qui fait que les gens qui sont en province ont du mal à accéder à ces documents.
Et c'est le ministre de la Justice qui est le seul à octroyer cette nationalité?
Effectivement, c'est le ministre de la Justice qui a compétence pour toutes les questions relatives à la nationalité en RDC, et c'est lui-même qui signe les certificats de nationalité. Ce qui fait qu'en province, par exemple, vous avez un besoin de certificat de nationalité, il faut envoyer la demande à Kinshasa.
Et ça pose problème.
C'est des sérieux problèmes, parce que si au Congo, en dehors même de la certificat de nationalité, il faut aller au fond même de la question même de la nationalité au Congo. C'est vrai, il faut qu'on dépassionne les débats sur la nationalité et la procédure, par exemple, de déchéance. Tout ce qui est, par exemple, la question d'attribution, les modes d'option de la nationalité. Donc, il y a beaucoup de problèmes qui, dans la pratique qui pose la question de la gestion de la question de la nationalité en lien aussi avec la gestion de la population. Si vous regardez au Congo, il n'y a personne qui a une carte d'identité. On ne sait pas qui est congolais, qui ne l'est pas. Ce qui fait que depuis 1984, chacun utilise la carte d'électeur. Aujourd'hui, par exemple, la carte d'électeur qui n'est pas censée être utilisée comme pièce d'identité à la République démocratique du Congo. Donc le problème, au fond, se présente à deux niveaux.
Nous allons y arriver. Quelles sont les pistes des solutions et même les recommandations de ce forum?
Au fait, les pistes des solutions, c'est à deux niveaux. Donc la partie normative, il faut améliorer le cadre légal national, notamment lever certains obstacles, certaines barrières qui créent la loi de 2004 par rapport à l'octroi des certificats de nationalité, par rapport au processus clé d'exclusivité et d'unicité de la nationalité congolaise, et aussi améliorer la pratique dans la gestion au quotidien de la question de la nationalité. Deuxièmement, c'est au niveau des pratiques administratives, au niveau des services d'état civil, d'arrestement des faits d'état civil, que ce soit une pratique qui est continue, permanente, et un service disponible au niveau de la population. Parce qu'en réalité, les services d'état civil au Congo, on a un personnel vieillissant, je m'excuse, mais dans la pratique, c'est des réelles difficultés. Il n'y a pas un système de gestion des archives. Le bureau central de l'état civil qui est censé recevoir tous les papiers, c'est un bureau qui est sur papier fonctionne, mais dans les fonds, au niveau pratique, on dirait que les bureaux n'existent pas.
Et à qui sont adressées toutes ces recommandations?
En fait, la première recommandation, c'est au niveau de l'état congolais. Parce que ça concerne la recommandation phare, il faut qu'on identifie qui est congolais, qui ne l'est pas, à travers les recensements nationaux à vocation administrative. Ces recensements, on a créé l'ONIP, bien entendu, ça va nous aider à avoir une carte d'identité. Donc l'État au premier plan, le ministère de la Justice, le ministère de l'Intérieur, même au niveau de la présidence, pour qu'on puisse prendre à bras les corps ces problèmes d'identification de la population, et d'aider au niveau du ministère de l'Intérieur, qu'on puisse restructurer, réformer le système d'État civil. Et ça va beaucoup aider pour lutter contre l'apatridie en RDC.
Alors, le problème ou même les risques d'apatridie, il se poserait pas seulement pour les Congolais, même pour les déplacés interne, mais également pour les réfugiés rwandais, angolais, centrafricains qui ont trouvé asile en RDC. Alors comment le ACR, qui est votre agence, compte-t-il régler ces problèmes?
Comme vous avez dit, les risques d'apatridie ne concernent pas seulement les Congolais, ça concerne toute la population, je dirais, que ce soit réfugiés, déplacés internes, tout le monde peut être affecté par la question de l'apatridie. Le ACR elle-même n'est pas à mesure de régler la question. Le ACR, dans son mandat, accompagne l'État. On donne des conseils techniques à l'État, on donne l'appui technique aux autorités.
Quels sont les conseils ou même l'appui technique que vous donnez à l'État congolais en ce qui concerne les réfugiés qui ont le même problème, les risques d'apatridie que les Congolais eux-mêmes?
L'appui technique, par exemple, on a la Commission nationale pour les réfugiés, qui est un organe de l'État, qui est soutenu par les HR dans l'enregistrement des naissances au niveau de chaque camp et des sites qui accueillent les personnes déplacées comme les réfugiés. On a également pour les comités techniques interinstitutionnels de lutte contre l'apatridie, il y a un projet financé par les HR pour coordonner toutes les activités de lutte contre l'apatridie et aussi accompagner l'État congolais pour adhérer aux conventions des Nations Unies qui luttent contre l'apatridie.
Est-ce que vous avez enregistré des cas d'apatridie en ce qui concerne les réfugiés d'autres pays qui sont en RDC?
Plus particulièrement des réfugiés, il n'y a pas de cas d'apatridie déjà enregistrés, mais pour les Congolais, parmi les citoyens congolais, on a déjà enregistré des cas.
Ah bon?
Oui, on a déjà enregistré des cas.
Combien?
Pour le moment, j'ai déjà reçu des cas. On a déjà traité. Il y a même un cas aujourd'hui qui traîne. Il y a quelqu'un qui est né de parents apatrides. Selon la loi, l'article 9, la loi de 2004 est congolais par présomption de la loi, mais dans la pratique, depuis 21 ans, la personne souffre en train de trimballer entre les procédures à gauche et à droite pour avoir la nationalité. Donc il y a des réels problèmes, ces questions. Quand on va communiquer davantage, quand beaucoup de gens seront informés sur la question, c'est pourquoi on les appelle invisibles. Beaucoup de gens ne veulent pas se faire montrer parce qu'ils risquent d'être arrêtés par la police, par différentes autorités, mais il y a beaucoup de personnes qui sont à risque d'apatrie en RDC. Comme vous l'aviez bien précisé, c'est des apatrides qui n'ont pas de nationalité. Quelqu'un, j'ai un exemple. Il y a des gens.
Mais qui sont quand même des Congolais.
Si les plans formel, selon la loi, c'est un Congolais. Mais dans la pratique, la personne n'a pas la nationalité. Parce que l'article 9 dit, toute personne qui est née des parents apatrides est Congolais par présomption de la loi. La personne a un papier. Il est né des parents apatrides. Il a le papier qui lui dit qu'il est apatride. Mais aujourd'hui, la personne ne peut pas bénéficier de la nationalité, même du certificat de nationalité. Ça fait 20 ans, 21 années que la personne tourne autour de la question. Il n'a pas de nationalité.
Bitakuya Kamandadeo, je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie.
Thank you. La nouvelle de Provence nous amène à Béni, au Nord Kivu, avec la visite mercredi dernier du nouveau commandant adjoint de la force de la MONUSCO. Il s'agit du général de division Thierry-Jacques Lyon. C'était sa première visite dans la région depuis sa prise de fonction et elle lui a permis non seulement d'inspecter les troupes de la MONUSCO déployées à Béni, mais aussi d'évaluer la situation sécuritaire. Le général Lyon s'était exprimé au micro de Martial Papimoukeba.
Pour l'instant, je suis donc acting force commander et donc j'ai cette mission d'assurer la continuité du commandement entre deux forces commandeurs. Et pour, j'allais dire, remplir au mieux ma mission, il est important pendant ces quelques semaines que je puisse aller visiter l'ensemble des unités qui sont sur le terrain pour mieux me rendre compte de la situation. La semaine dernière, j'étais dans le secteur sud, donc j'ai souhaité aujourd'hui repartir vers le secteur nord. Je viens justement ici à Béni pour mieux me rendre compte de la situation.
Magazine des Nations Unies, questions aux Nations Unies.
Comment la MONUSCO juge-t-elle la mutualisation des forces de différents états-majors des armées de la région pour traquer le groupe armé dans l'est de la RDC? Question posée mercredi 30 octobre à la porte-parole de la mission. C'était au cours de la conférence de presse des Nations Unies. Suivez la question ainsi que la réponse de Florence Marshall.
Jael Moloaï du magazine Actu 30. La MONUSCO a participé à la réunion conjointe entre l'armée congolaise et celle du Rwanda, de la Tanzanie, de l'Ouganda pour mettre fin à l'insécurité à l'est du pays. Au niveau de la MONUSCO, comment vous jugez cette mutualisation de forces pour traquer les rebelles à l'est?
Merci, je crois qu'on a eu l'occasion de s'exprimer à plusieurs reprises à ce sujet. En tant que partenaire des FRDC, la MONUSCO a été effectivement invitée à participer à la réunion qui s'est tenue la semaine dernière, tout comme elle l'avait été pour la réunion de septembre. Mais nous l'avons dit à plusieurs reprises, notre mandat est de soutenir les FRDC. C'est un mandat national à une armée nationale et cela n'inclut pas donc de soutien à une coalition régionale. Donc notre position est de dire que si nous devions être impliqués, la décision devrait revenir au Conseil de sécurité. La représentante spéciale du secrétaire général, Madame Leila Zerougui, a eu l'occasion aussi il y a quelques jours de s'exprimer à ce sujet et elle a rappelé sa position qui est la suivante. Selon elle, la meilleure façon de lutter contre les groupes armés, ce n'est pas de déclencher une guerre, mais de s'attaquer aux causes profondes du conflit, les comprendre et les résoudre.
Le magazine des Nations Unies. Tout sur les faits saillants des activités des agences du système des Nations Unies en RDC. Chaque dimanche de 10h à 10h30, heure de Kinshasa, sur Radio Capi.
Quelques rendez-vous à noter dans vos agendas. D'abord, concernant la justice internationale, retenez que c'est le 7 novembre, jeudi prochain donc, que la CPI va se prononcer sur la peine à infliger à Bosco Ntaganda, déjà reconnu coupable en juillet dernier de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. D'autres dates à suivre dans le calendrier des Nations Unies, le même 7 octobre, journée internationale de l'écrivain africain, le 8 novembre, journée mondiale de l'urbanisme et le 9 novembre, journée internationale de mobilisation et de la lutte contre le terrorisme ainsi que des mouvements terroristes dans le monde. Jean-Claude Ciel a été à la technique. Moi, c'est Babel Pongo Massimango. J'étais à la présentation de ce magazine. Coordination, reportage et réalisation, Jean-Pierre Lali Coco. Honoré Missinga était également au reportage. Toute l'équipe vous remercie d'avoir suivi ce magazine. La bonne compagnie avec les programmes des Radio Capi et la fréquence de la paix.